les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous, heureux de vous retrouver pour les nouvelles du monde. Il est 18h à Bujumbura au Burundi, 16h à Ouagadougou au Burkina Faso, 17h à Bangui, Centrafrique. D'abord l'actualité en Afrique. Au Burundi, un des fils du grand défenseur des droits de l'homme a été assassiné ce matin par la police, selon des sources et des habitants du quartier de Chibitoke au nord de la capitale. L'association pour la promotion des droits de l'homme et des prisonniers à ProDH, l'organisation de son père, a confirmé l'information. Son frère militaire a déjà retrouvé son corps. Son père avait failli être assassiné par un motard alors qu'il rentrait chez lui. Il est aujourd'hui en Belgique pour se faire soigner. Le gendre de Pierre Clavet en Bonima avait été assassiné devant son domicile en Gagara, quartier 9. Et la fille de Bonima avait elle aussi échappé à un attentat. Elle vit aujourd'hui en exil. Les précisions de Christophe Nkurunziza.
Willy Nzitonda, un des fils de Pierre Clavet en Bonima, grand défenseur des droits de l'homme au Burundi, a été assassiné ce vendredi dans le quartier de Chibitoke au nord de Bujumbura. Les sources de la population affirment que la police l'a retiré vers 9h GMT du quartier contestataire de Mutakura avec 4 autres personnes. Willy Nzitonda a tenté de quitter ce quartier pour se mettre à l'abri quand des policiers l'ont arrêté et conduit dans un endroit inconnu. Mercredi soir, 4 personnes avaient été assassinées par des insurgés, selon la police, dans les quartiers de Mutakura et de Chibitoke. L'on avait enlevé le cœur d'une des victimes. Pascal Nshimirimana, le gendre du grand défenseur Pierre Claver Mbonimpa, avait été assassiné le mois dernier près de son domicile dans les quartiers neuf de Ngagara. Pierre Clavet Mbonimpa avait échappé à un attentat 24 heures après l'assassinat de l'ex-chef des services de renseignement Adolphe Nshimirimana les 2 août dernier. La violence a augmenté d'un cran depuis l'annonce du troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza, où plus de 200 personnes ont été tuées selon les Nations Unies. 200 000 personnes ont fui et vivent dans les pays limitrophes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et selon le centre de réflexion spécialisé dans la prévention des conflits, le Burundi fait à nouveau face à de possibles atrocités à grande échelle et une possible guerre civile. L'escalade de la violence, la rhétorique de plus en plus radicale et le flot continu de réfugiés. Plus de 200 000, vient de le dire Christophe Nkurunziza dans son reportage. Et ICG indique que les divisions se creusent et dans une alerte conflit reçue aujourd'hui, vendredi 6 novembre. Et face à cette situation, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi avec des représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme et de l'Union africaine. À notre demande, le Conseil de sécurité des Nations unies va se réunir le 9 novembre sur la situation burundaise, a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, qui s'inquiète de la dégradation continue de la situation dans ce pays en dénonçant les discours de haine qui menacent d'enflammer le pays. Et en République centrafricaine, le réarmement des forces armées centrafricaines, les FACA, continue d'alimenter la polémique. La mesure souhaitée par la présidente de transition a été critiquée par les rebelles de l'ex-Séléka, mais le gouvernement persiste et signe en invoquant l'insécurité endémique dans le pays. On écoute le ministre centrafricain de la Défense, Joseph Bindoumi.
Il n'y a pas d'accord qui a supprimé les FACA. Les FACA n'ont jamais été supprimés. Les FACA ont existé, ont mené une guerre, ont été attaqués par des forces de la coalition Séléka, et Séléka a réussi de la rébellion à parvenir au pouvoir. Donc la communauté internationale s'est rendue compte que les forces qui sont arrivées au pouvoir sont des forces irrégulières. Et donc la communauté internationale a mis ces forces qui sont arrivées au pouvoir sous embargo. Mais malheureusement, pour ceux qui sont arrivés au pouvoir, leur gestion de la chose publique a été de telle nature que le pays n'en voulait plus. Ce qui fait que le président Djotodia a dû démissionner. Son intérim a été assuré par le président du Conseil national de transition pendant 15 jours. Et des élections ont été organisées au suffrage universel indirect. Et celui candidat, Madame Samba Panza, a été déclaré élu au premier tour chef d'État de la transition. Donc, il s'agit d'un nouveau régime. Elle a pris le pouvoir, elle a rétabli les forces armées centrafricaines.
C'était donc Joseph Bindoumi, ministre centrafricain de la Défense, joint à Bangui par Pascaline Magalé. Et le Burkina Faso lance dimanche sa première campagne présidentielle postée Compaoré, dont le vainqueur dirigera la première alternance démocratique depuis des décennies dans un pays à l'histoire marquée par de nombreux coups d'État. 14 candidats sont en lice. Initialement prévues le 11 octobre, ces élections présidentielles législatives ont été reportées au 29 novembre en raison du coup d'État manqué du 16 septembre mené par un ancien bras droit de Compaoré, le général Gilbert Diendéré, qui y a depuis été arrêté et inculpé de crimes contre l'humanité par la justice militaire. En Afrique du Nord, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, estime que les djihadistes du groupe État islamique ont tué plus de civils en Libye que n'importe quelle autre faction en conflit dans le pays. Mais toutes sont responsables de crimes à grande échelle, a-t-elle ajouté. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari préconise le retour au système des traditionnels de maintien de la sécurité. Il envisage l'implication des communautés et des autorités locales dans la lutte contre les djihadistes. Au Mali, reprise de la semaine culturelle de Tombouctou après 3 ans d'interruption. L'objectif est de réunir les artistes de la région pour faire la promotion de la paix et de réconciliation. Et la chaîne d'information multilingue Euronews va lancer le 4 janvier prochain Africa News, une chaîne dédiée à l'Afrique subsaharienne. Une équipe de 85 professionnels de 15 nationalités sera basée au Congo-Brazzaville. Et en football, la finale du mondial de moins de 17 ans opposera le Nigeria, tenant du titre au Mali, dimanche à Vina del Mar au Chili. En demi-finale, les Super Eagles, déjà 4 fois titrés, ont éliminé le Mexique et le Mali a battu la Belgique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, dans le sud-est du Brésil, les sécuristes essaient de retrouver d'éventuels survivants d'un village englouti par une coulée d'eau boue géante. Il y a eu au moins 17 morts et ce bilan risque d'être révisé à la hausse, n'est-ce pas, Idriss Fall?
Bento Rodrigues a été totalement dévasté dans l'état de Minas Gerais, le cœur minier dans le sud-est du Brésil. Ce village comptait près de 600 habitants, la plupart employés de la compagnie minière Samarco. Le barrage de Fundão, large comme 10 terrains de football, retenait des boues toxiques de déchets miniers. Il a cédé hier, libérant une coulée de boue sur 2 km, 122 maisons ont été englouties et plusieurs voitures embourbées. Selon Adao Severino Junior, commandant des pompiers sur place, hier soir, il y avait 17 morts, au moins 50 blessés et une quarantaine d'habitants sont portés disparus. Ce matin, des bulldozers essayaient difficilement de dégager les routes obstruées et permettre le passage des véhicules avec quelques 200 secouristes. La présidente Dilma Rousseff a proposé l'aide de l'armée et la garde nationale brésilienne.
Idriss Fall. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui la suspension des vols des compagnies aériennes russes vers l'Égypte sur recommandation des services secrets après le crash de l'Airbus de la compagnie Metrojet dans le Sinaï qui a fait 224 morts samedi. Et toujours en Égypte, l'opération de rapatriement des touristes britanniques a commencé aujourd'hui avec le décollage de 2 avions de Sharm el-Sheikh, 6 jours après le crash d'un avion russe en Égypte, pour lequel la thèse de l'attentat à la bombe semble de plus en plus probable. L'aviation civile égyptienne, après avoir fait état de 29 vols aujourd'hui, a finalement indiqué que seuls 8 seraient autorisés à rapatrier dans la journée les Britanniques de Sharm el-Sheikh, la cité balnéaire d'où avait décollé l'avion russe avant le crash dont le groupe djihadiste État islamique s'est dit responsable. Politique étrangère américaine, les Américains commencent à désapprouver les efforts du président Barack Obama pour contrer le groupe État islamique au Moyen-Orient. Selon un tout nouveau sondage d'opinion aux États-Unis, certains pensent que le chef de l'exécutif n'en fait pas assez, tandis que d'autres lui reprochent d'avoir rompu sa promesse de mettre fin à l'engagement militaire américain dans la région. Et un Allemand, membre présumé de l'organisation djihadiste État islamique, a été arrêté vendredi à son retour en Allemagne, a annoncé le procureur fédéral de Kachou, sud-ouest. 19 demandeurs d'asile érythréens en provenance d'Italie sont attendus dans l'ouest de la France. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes avec Jérémy Madirakiza. Je vous souhaite de passer un bon après-midi. Restez à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.